journal, Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, celle qui nous accable dès maintenant justement et jusque tard dans la nuit, sans répit, la chaleur et ses conséquences au SAMU, aux urgences. Elle commence à se faire ressentir, le standard de canicule infoservice tourne à plein régime et les jours qui viennent vont encore nous faire souffrir. Il faut changer nos politiques et nos modes de vie, martèle Emmanuel Macron depuis Tokyo. Et si on méditait pour mieux supporter ces températures extrêmes, c'est peut-être ce que va nous suggérer votre invité.
Il s'agit du psychiatre et spécialiste de la méditation, Christophe André, et sa voix douce et calme. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. Appelez-nous, amis auditeurs, 01 45 24 7000. Passez autrement par les réseaux sociaux, même si Christophe André le déconseille, et l'application mobile France Inter.
À la une également, la plume acerbe de Nicolas Sarkozy, son livre Passion sort aujourd'hui et dans ses lignes, ils sont un certain nombre à en prendre pour leur grade. Un premier débat dans la course des primaires démocrates aux États-Unis, Elizabeth Warren à l'offensive. Un espoir pour contrer le cancer à la racine, c'est l'immunothérapie. Et Quincy Jones à Paris, là où tout a commencé pour lui. Le légendaire jazzman et producteur en concert à Bercy.
France Inter.
C'est maintenant qu'on entre dans le dur, la chaleur qui s'accumule depuis le début de la semaine et qui commence sérieusement à pomper notre énergie et à nous taper sur le système. Et ça, c'est quand tout va bien, parce que la canicule, on s'en souvient, peut tuer. 15 000 morts en 2003, ce qui inquiète les plus fragiles et leurs familles. D'où l'afflux d'appels au 0800 06 66 66, canicule info service. C'est un reportage de Béatrice Duguet.
600 appels par jour depuis lundi, les répondants s'attendent à plus de 800 ce jeudi et ce vendredi.
Canicule Info Service, Géraldine, bonjour. D'accord. Elle est somnolente. Comment vous la sentez ?
Géraldine répond à la fille d'une femme de 94 ans. Il fait près de 40 degrés dans l'appartement de la vieille dame. Elle est très incommodée par la chaleur. Les agents municipaux sont passés la voir le matin. Mais sa fille s'inquiète, voire s'impatiente quant à une autre intervention.
Donc là, si je comprends bien, vous avez contacté la mairie de sa commune.
Pendant une dizaine de minutes, Géraldine va prodiguer des conseils, patiemment.
N'hésitez pas, nous restons disponibles jusqu'à 19h. Il faut comprendre le besoin, le désarroi des personnes. Donc, il faut être délicat et compatissant. Même pour nous, hein, supporter la chaleur, ça peut être complexe. Donc, je comprends tout à fait son désarroi. Cette dame qui doit aussi travailler, qui a sa propre vie.
Les personnes âgées, isolées, les parents d'enfants en bas âge, voilà pour l'essentiel des sollicitations. Il faut aussi répondre à des groupes, précise Hugues Farou, le responsable de la mission sur cette centrale d'appel.
On a des associations sportives. Elles veulent savoir s'il y a des précautions à prendre ou s'il convient d'annuler même les événements en cas de trop forte chaleur et de risque pour les participants. Et également des écoles qui organisent des sorties d'enfants et qui là aussi veulent savoir s'il est opportun de les maintenir ou pas, et puis quelles précautions prendre.
Une dizaine d'agents répondent depuis lundi. Ils seront potentiellement une cinquantaine dans les deux jours qui viennent.
Parce qu'il va faire encore plus chaud. Aujourd'hui, 34 à Paris, 39 à Châteauroux, 40 à Nevers, 41 à Souillac, dans le Lot, 42 à Montluçon. Et le plus dur reste à venir, prévient le directeur général de la Santé. Chaleur intense attendue dans la basse vallée du Rhône demain. En Ile-de-France, c'est samedi qui sera la journée la plus chaude. Chaleur qui commence à avoir un impact sanitaire. Plus d'appels au SAMU et d'arrivées aux urgences. Conséquence d'une canicule qui se prolonge et qui pèse sur l'organisme, comme l'explique Marie-Laure Albi, médecin généraliste, au micro de Véronique Julia.
C'est vrai qu'au bout de plusieurs jours de forte chaleur et d'une moindre baisse de la température la nuit, effectivement, c'est là où on peut commencer à avoir des conséquences sur la santé. Les organismes bien portants vont simplement être fatigués, voire faire des coups de chaleur s'il y a des imprudences. Mais les gens qui ont des pathologies chroniques style cardiovasculaire ou maladies neurodégénératives vont avoir une majoration de leurs symptômes, voire des décompensations. Le cœur fonctionne moins bien et il décompense son insuffisance cardiaque, clairement. S'ajoute à ça les problématiques de pollution. Il y a une surcharge comme quand il fait très froid, hein, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'ensemble du fonctionnement cardiovasculaire notamment ou respiratoire rencontre un stress et donc avec des risques de décompensation, surtout chez les malades fragiles et âgés. Quoi.
Et pour éviter les coups de chaud dans les écoles aujourd'hui, comme il y en a eu mardi en maternelle à Sarcelles par exemple, plusieurs communes ont décidé de les fermer aujourd'hui en Ile-de-France, en Isère, dans l'Est ou dans le Var.
Il Il est 8h05 et le dernier endroit, Florence, où on a envie d'être en ce moment, c'est en cœur de ville.
Le bitume emmagasine la chaleur, les immeubles aussi. Et quand on vit dans un petit appartement, c'est la double peine. Ce couple de Parisiens, chez qui Mathilde Dehimy s'est rendue, prend les choses avec philosophie, ce qui implique de la tactique.
Comme beaucoup de citadins, Hélène et Nicolas ont appris à vivre dans le noir, calfeutré. Ouvrir les fenêtres est devenu tout un art.
Je passe le bras par la fenêtre pour vérifier s'il fait plus chaud ou plus froid que dehors. Donc en début de semaine, c'était très tard, vers 4-5 heures du matin, que ça commençait à être possible. Et hier, vers 2 heures, il faisait déjà à peu près bon dehors.
À 22 heures, il fait encore 27 degrés dans la chambre que Nicolas a dû quitter.
Bah, comme on a une petite chambre, il faisait vraiment trop chaud parce qu'on était deux dedans. Alors du coup, j'ai fini par dormir par terre sur un petit tapis de gym dans le salon.
Hélène a changé ses habitudes alimentaires.
On ne fait rien cuire, donc pas de four, pas de gazinière, à peine la bouilloire le matin. Enfin, on mange froid depuis une semaine. Hein. Heureusement qu'on aime les salades.
Et vestimentaire.
Honnêtement, hier soir, on n'était pas très habillés. On peut dire que c'était soirée naturiste dans le 10e arrondissement.
Et quand ne presque rien porter ne suffit toujours pas, ils bricolent une clim maison avec leur petit ventilateur.
Mettre des bouteilles d'eau au congélo. Après, on va les installer devant le ventilateur dans la chambre. Là, je cherche une cale. Histoire secrète de la 5e République.
Voilà, il y a l'air du ventilateur qui passe par les bouteilles gelées. L'air devant est tout frais.
Celui qui s'en sort le mieux, c'est Félix, leur fils de 9 mois. Couché, à peine sorti du bain, il s'est immédiatement endormi.
La ville et ses défauts par temps chaud, on y ajoutera la pollution. Lyon et Paris rejouent la circulation différenciée. Aujourd'hui, comme hier, seuls les véhicules aux vignettes critères 0, 1 et 2 auront le droit de rouler. À Annecy, l'interdiction commence après la vignette 3, comme à Marseille, où ces restrictions seront mises en place pour la première fois, mais où peu de conducteurs ont une vignette. La même règle vaut pour Strasbourg et Grenoble aujourd'hui. De quoi alimenter la réflexion d'Emmanuel Macron à l'offensive pour faire respecter l'accord de Paris sur le climat à des milliers de kilomètres de la fournaise française. Le président au Japon, avant le G20, il faut tout changer, dit-il, pour s'adapter à ces épisodes de canicule.
On va de plus en plus aller vers ces situations. Nous allons nous-mêmes devoir changer notre organisation, nos manières de travailler, notre urbanisme, nos manières d'aller au travail, parce qu'on va devoir faire face à ces situations de chaleur forte, parfois de plus en plus longues, avec des pics qui seront de plus en plus hauts, qui sont la conséquence de tout ce qui s'est fait ces décennies passées, et donc qui supposent de s'organiser différemment. On ne peut pas dire d'un côté, on veut réduire les gaz à HFC, de l'autre côté, mettre des climatiseurs partout. On va devoir construire différemment, se comporter différemment, parfois se vêtir différemment quand il y a ces pics-là. C'est une adaptation de la société, de ses pratiques. J'ai demandé au gouvernement d'y travailler, c'est quelque chose qu'on doit faire. La deuxième chose, c'est regarder ce que font nos voisins de mieux que nous et comment nous faire plus. Mais tout se tient. C'est pour ça que le combat qu'on va mener au G20 ici, puis au G7 français, est décisif. On ne peut pas avoir à la maison des citoyens, une jeunesse qui nous dit vous devez faire plus, ce qui est vrai. On ne peut pas avoir des scientifiques qui nous disent vous ne faites pas assez, ce qui est vrai. Et de l'autre côté, une communauté internationale qui disent on verra quand on aura le temps, on n'y croit pas tellement. Finito.
Emmanuel Macron au micro de Julie-Marie Lecomte. Le président menace de ne pas signer le communiqué final du G20 si ses membres ne s'engagent pas fermement sur l'accord de Paris pour accélérer la réduction des gaz à effet de serre. Emmanuel Macron, l'un des seuls, a trouvé grâce aux yeux de Nicolas Sarkozy dans Passion, son récit qui sort en librairie aujourd'hui. Vous avez passé une partie de la nuit à le lire, Élodie Forêt. Bonjour.
Bonjour.
Et ce que vous avez retenu, c'est notamment cette galerie de portraits dessinés par l'ancien président, souvent au vitriol.
Oui, des portraits piquants, voire saignants, particulièrement malmenés, François Hollande et Ségolène Royal. Nicolas Sarkozy raconte la brutalité du premier, le manque de qualité humaine de la seconde, sa propension à dire à peu près n'importe quoi sur tous les sujets. Mais c'est dans son propre camp que l'ex-président égratigne le plus. Au fil des pages, on croise Dominique de Villepin, hypocrite, Jean-Louis Borloo, inconstant, Xavier Bertrand, parano, François Fillon, une personnalité dissimulée qu'il n'aura jamais su cerner. Peu trouve donc grâce à ses yeux, hormis le mentor Édouard Balladur, Philippe Séguin, un homme massif, puissant, courageux mais fragile. Jacques Chirac occupe lui une place particulière, véritable fil rouge de ce récit entre admiration et rancune tenace. Quant à lui, se remet-il en cause? À petite touche, parfois trop pressé, reconnaît-il. Trop de pouvoir, trop de réussite rapide, ma tête avait tourné.
Alors forcément, on se pose une question, Élodie, avec la sortie de ce livre d'un ancien président menacé par la justice, c'est celle des arrière-pensées, l'idée d'un retour en politique peut-être peut-être ?
Alors, beaucoup à droite le fantasme, mais non, Nicolas Sarkozy l'assure dans une interview accordée au Point. Il ne s'agit pas d'un retour à la vie politique, tout du moins à la vie politique partisane. Avec ce livre, finalement, l'ancien président cherche davantage à se réécrire, se présentant comme un homme de synthèse, héritier de Balladur et de Chirac. Réécrire son histoire pour maintenir la flamme avec les Français en s'offrant, et ça dès demain, des séances de dédicaces en librairie. Maintenir la flamme alors que son calendrier judiciaire, vous l'avez dit, ne s'annonce pas riant avec l'ouverture désormais certaine du procès dit des écoutes. Maintenir la flamme à long terme car il ne s'agit ici que d'un premier tome s'achevant le jour de son entrée à l'Élysée. Il lui reste beaucoup à raconter.
Élodie Forêt du service politique de France Inter. À l'étranger, le gouvernement vénézuélien de Nicolas Maduro annonce avoir déjoué un coup d'État. Selon le ministre de la Communication, des militaires ont été arrêtés qui prévoyaient d'assassiner le président bolivarien et de prendre le pouvoir appuyé par l'étranger.
Il est 8h11, Florence, 10 candidats pour un débat aux États-Unis.
10 des démocrates qui rêvent d'être investis pour la présidentielle de 2021. Première confrontation hier à Miami, en Floride, dominée par Elizabeth Warren, la femme qui monte dans les sondages. Débat suivi par Gregory Phillips avec des démocrates.
2 heures de débat menées au cordeau avec les réponses des candidats ne devant pas excéder 60 secondes. C'est Elizabeth Warren qui ouvre le feu et elle se saisit de la première question sur l'économie comme un golfeur taperait dans une balle posée sur un tee, percutante. Certes, les États-Unis ont une économie florissante, dit la sénatrice du Massachusetts, mais ça ne profite pas aux plus pauvres et aux classes moyennes. Dans ce bar qui retransmet le débat sur un écran géant, applaudissements nourris, Christina, franco-américaine, est convaincue.
Elle connaît très bien ses dossiers, assurance médicale par exemple, emploi, elle est plutôt à gauche, oui. Mais bon, aujourd'hui, c'est très polarisé aux États-Unis. Donc, c'est ce que les gens recherchent, c'est plus clair.
Julian Castro, l'ancien secrétaire d'État au logement d'Obama, fait aussi bonne impression, tout comme le sénateur du New Jersey, Cory Booker. Les autres candidats sont plus atones. Il n'y a pas de désaccord majeur entre les 10 réunis ce soir. Il faut sauvegarder le climat, défendre le droit à l'avortement. La politique de Trump vis-à-vis de l'Iran est une catastrophe. Les immigrés sont une chance pour le pays et pas une menace. À la fin du débat, chacun a 45 secondes pour conclure. Warren promet qu'elle se battra pour les Américains aussi dur que pour sa famille. Castro assure, avec quelques mots d'espagnol, que l'Amérique dira adios à Trump en janvier 2021. Miami, Grégory Phillips, France Inter.
Et deuxième débat ce soir avec 10 autres candidats, parmi lesquels Joe Biden et Bernie Sanders qui font la course en tête dans les sondages. Ça se complique pour Boeing et son 737 Max. L'avionneur qui misait sur la reprise des vols cet été va sans doute devoir attendre. L'Agence fédérale de l'aviation américaine annonce avoir découvert une nouvelle faille potentielle sur le système anti-décrochage de l'avion. C'est ce système qui est mis en cause dans les récents crashs indonésiens et éthiopiens.
Et si l'on a arriver, Florence, à traiter les cancers avant qu'ils ne se déclarent.
C'est l'espoir d'une équipe de l'INSERM autour du système immunitaire. La maladie le modifie dès le stade précancéreux, ce qui ouvre la perspective d'agir dès le début et de booster l'immunité, Véronique Julia, pour éviter le développement des tumeurs.
L'étude française porte sur le cancer du poumon. Les chercheurs se sont penchés sur une centaine de biopsies pulmonaires faites sur des fumeurs, à risque donc de cancer. Et ils se sont rendus compte que quand des cellules précancéreuses apparaissent, c'est-à-dire à un stade extrêmement précoce, quand les cellules commencent à se transformer et ne sont plus tout à fait normales, à ce stade-là, déjà, le système immunitaire autour est modifié. Son fonctionnement semble altéré avant même l'arrivée du cancer. Jérôme Gallon est directeur de recherche à l'INSERM. C'est le principal investigateur de l'étude.
Au stade précancéreux, le système immunitaire commence déjà à être endormi avec ces globules blancs qui sont moins capables de faire leur travail, c'est-à-dire moins capables de reconnaître et de détruire les cellules qu'ils doivent détruire normalement. C'est très net, ce sont différentes approches qui nous ont permis de rendre ces conclusions. Ça ouvre effectivement des portes thérapeutique très importante.
Ces portes, ce serait donc de faire de l'immunothérapie, autrement dit de réveiller le système immunitaire affaibli dès le stade précancéreux et donc avant même que les cellules anormales n'évoluent vers un cancer. Pratiquer à un stade précoce, cette immunothérapie serait sans doute d'autant plus efficace. Évidemment, les stades précancéreux ne sont pas toujours identifiés, mais ils peuvent être décelés à l'occasion d'une coloscopie ou d'une bronchoscopie de contrôle, chez les grands fumeurs notamment.
Et cette étude de l'INSERM est à retrouver plus en détail sur France Inter. Le mauvais état des ponts français, 25 000, présente un risque réel selon des sénateurs qui publient aujourd'hui un rapport sur la question. Dans la saga judiciaire et familiale sur l'héritage de Johnny Hallyday, voici un deuxième revers pour Laetitia. La justice américaine bloque temporairement le transfert transfert des biens du rocker dans le trust créé par sa veuve. Le juge estime qu'il ne peut pas agir sans prendre en compte les décisions de la justice française, qui s'est déclarée compétente pour examiner la succession. Ce dont se félicitent les avocats des aînés de Johnny, David Hallyday et Laura Smet. Premier quart de finale du mondial féminin de foot ce soir, Norvège-Angleterre, 21h au Havre. Sachez que les Anglaises font partie des favorites du tournoi.
Il a 86 ans, Florence, et il va tout donner ce soir à Bercy.
Quincy Jones en concert à Paris, où le mythique jazzman et producteur a commencé sa carrière, Mathieu Culeron.
Mr. Quincy Jones.
C'est finalement presque en France que Quincy Jones devient une légende du jazz. L'arrangeur de Count Basie, de Sarah Vaughan et de Ray Charles débarque à Paris au début des années 50. Il est trompettiste dans le big band de Lionel Hampton. Mais ce qui intéresse ce fan de Dizzy Gillespie, c'est l'orchestration de cordes. C'est Teddy Barclay qui lui offrira cette chance avec toutes les stars françaises de l'époque. Aznavour, Brel, Boris Vian. C'est même lui qui présente Michel Legrand à Jacques Demy pour la bande originale du film Lola. De retour aux États-Unis, c'est la gloire qui l'attend. Après avoir accompagné Elvis Presley, il devient ami avec Frank Sinatra, avec lequel il enregistre un album à Las Vegas. Et puis, il y aura la production de deux albums mythiques de Michael Jackson. Avec Off the Wall et Thriller, Quincy Jones devient une légende. En 50 ans de carrière, Quincy a tout vu, tout connu, côtoyé tout le monde. Il sera sur scène entouré de Véronique Sanson, Marcus Miller et Ibrahim Malouf. C'est probablement l'une des dernières chances de voir le plus grand producteur américain et francophile sur une scène de la capitale. Car il est temps de reconnaître que le petit élève studieux de Nadia Boulanger est devenu le parrain du jazz et de la pop mondiale.
Alors on peut y aller parce que je viens de vérifier, il reste quelques places encore à Bercy.
Avec plaisir, merci beaucoup Florence Paracuelos.